Alors, on était à Genèse chapitre 32, et Céline m'a déjà posé la question, comment j'approche Jacob? Y a-t-il une semaine difficile? Pauvre Jacob, la vie est stressante. Pauvre Jacob. Hein? Pendant que vous cherchez à Genèse chapitre 32, j'aimerais vous poser une couple de questions. Question en réflexion. Est-ce que on essaye d'aider Dieu? Dans le sens que nous autres, on voit un besoin puis on voudrait le combler. Semble que c'est dans la nature humaine, on voit un besoin qui a besoin d'être adressé. On va tout faire dans notre possible pour le rencontrer, le besoin. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige? Moi, j'aimerais ça que ce soit le cas dans ma vie, j'espère, dans votre vie aussi, que le Saint-Esprit nous place face à des choses qu'on doit faire. Mais des fois, je trouve que des fois, on est influencé par nos propres sentiments, par notre cœur. Est-ce que notre cœur est joyeux? Je veux louer le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour l'adorer? Et c'est sûr, certain que c'est bien de s'exprimer tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais des fois, on vient avec un cœur troublé aussi. On voit quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous bouleverse. Et on voudrait faire quelque chose, que ce soit d'autres personnes qui sont dans la souffrance. Et on voudrait les aider, on voudrait leur dépanner si on est capable. D'autres fois, c'est un cœur craintif. On vit des expériences de notre vie qui nous influencent, et à la longue, ça vient intégrer dans notre caractère. Je parlais de ceci avec ma mère cette semaine. On parlait de mon père, comment est-ce que lui, il a perdu sa mère très jeune, et puis il avait ce sentiment toute sa vie de manquer sa mère. Et je trouvais ça toujours drôle, parce qu'il avait une autre mère, et puis son père s'est remarié. Mais il réfléchissait tout le temps à cette mère qu'il avait et qu'il a perdue. Et ça lui a donné beaucoup d'insécurité dans la vie, pour laquelle moi j'avais beaucoup de misère à suivre comme un jeune. Moi je vivais dans une maison avec frère, soeur, mère, père, on avait tout ce qu'on en pouvait imaginer. Mais il y en a d'autres aussi qui ont expérimenté des choses qui les ont vraiment bouleversées. Ça peut être un moment de pauvreté. Ça peut être des douleurs de maladie. Toutes sortes de choses qui peuvent affecter la façon qu'on pense. Et je dis cela par rapport à chapitre 32. Ça devient très évident dans la vie de Jacob. Comment est-ce que lui, il semble dans une situation où la vie lui a donné toute une montagne russe d'événements, des hauts et des bas, pour en arriver à une situation où ce que... Pauvre Jacob, il est rendu, il a quitté là-bas et puis il est rendu sur la route pour retourner chez ses parents. Il y a toute une histoire, hein? Il y a 20 ans d'histoire qui a passé. Et ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. Mais malheureusement, il ne sait pas l'état actuel. Il ne sait pas s'ils vont bien, s'ils ne vont pas. Lui est en route pour retourner chez lui et... sa plus grande crainte, on va le voir ce matin, c'est Ésaü. Il est parti en fuite parce que son frère Ésaü voulait lui tuer. On a vu que il était seul. On a cette situation où que il était seul dans un autre pays. Il a rencontré une jeune fille, tombé en amour. Et puis, il s'est mis en entente avec le père de cette fille, Rachel, travaillé 7 ans pour l'avoir comme épouse, mais lorsqu'il se marie, il reçoit Léa à la place. Alors, il travaille un autre 7 ans pour avoir Rachel. Et puis ensuite, elle et sa sœur lui produisent 11 filles et une fille avec leurs deux serviteurs. Et on voit comment est-ce que il sent le besoin de partir. L'Éternel lui dit, c'est temps de partir. Alors, il quitte subitement et il part avec tous ses biens, avec sa famille. Et là-bas, évidemment, il n'est pas content. Il court après, il poursuit et il l'attrape. Et c'est juste un rappel de tout ce que Jacob a vécu. Et on a vu la semaine passée que Jacob et Laban font une alliance, une entente. Mais dans chapitre 32, quelque chose arrive dans les premiers versets, et franchement, c'est pas évident comment ça se déroule. Jacob, il poursuit son chemin, verset 1, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob, il rencontre des anges. Les anges, le mot hébreu voulait dire messager. C'est Dieu les a envoyés, ces anges-là, pour amener le message. Par contre, dans ces versets-là, on trouve aucunement, on ne trouve pas de message. Alors, c'est quoi le message qu'ils ont donné? Je crois, par la réaction de Jacob, on est capable de déduire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il les a rencontrés, et il réagit avec joie, il dit « c'est le camp de Dieu ». Et il sait que Dieu lui a dit de retourner chez lui, puis tout à coup, les messagers arrivent. C'est comme s'ils sont là pour l'encourager. Il doit avoir un message d'encouragement. Et il appelle Mahanaïm, qui veut dire ces deux camps. Le camp de sa famille et le camp de Dieu. Il voit ça comme deux entités. On se rend compte. Et c'est là qu'il donne ce nom-là. C'est surprenant en passant parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Verset 3 nous dit que Jacob envoyait devant lui des messagers à Ésaü. Alors, il était assez encouragé par la visite des anges que lui est prêt maintenant à envoyer un message à Ésaü. On ne veut pas arriver comme un cheveu sur la soupe. On ne veut pas arriver grande surprise. Mais plutôt, on va arriver avec des messagers qui nous ont dévancés, qui vont annoncer notre arrivée. Et il leur donna cet ordre, verset 4. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Alors, Jacob, il envoie un messager avec le but de s'introduire et de se préparer un chemin. Il a tout préparé ça d'avance et il les envoie. Il me semble que c'est beaucoup, dans un sens, c'est civil, c'est respectueux. La dernière fois qu'il a vu son frère, ce n'était pas une rencontre très respectueuse. Son frère voulait le tuer. C'était un moment de conflit, de chicane. Et maintenant, il semble qu'après 20 ans, il a encore cette pensée dans sa tête que son frère, probablement, il l'haït encore. Probablement, je dois adoucir la situation. Il envoie les messagers. Et verset 6, les messagers reviennent à Jacob et ils disent, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Verset 7, Jacob fut très effrayé. Hein? C'est quoi ça, en québécois? Hein? Il a chienne, il a peur, il panique. Jacob est encore avec ses pensées de son frère, le 20 ans, qui voulait le tuer, puis là il s'en vient avec 400 hommes. Wow! Il annonce qu'il arrive avec toute sa famille, avec tous ses servants, serviteurs. Il est tout excité pour l'annoncer qu'on arrive en gang. Et qu'est-ce qui arrive? Ésaïe s'en vient le rencontrer, mais avec sa gang à lui. Et ça va faire tout un conflit. Ça, c'est la pensée de Jacob. Il s'attend tout à ça et il panique. Il fut très effrayé et saisi d'angoisse. Et ça revient à ce que je te disais tantôt. Pense un peu. Il a vécu 20 ans avec toutes sortes de pensées, toutes sortes d'expériences passées et toutes sortes de problèmes. Et à chaque fois, Jacob semble avoir une méthode, comment il peut s'arranger avec ça. Que ce soit la soupe en échange d'un droit d'aînesse, que ce soit sa mère qui arrive avec un plan, pourquoi il peut avoir la bénédiction de son père. Ils ont tout le temps une façon. Ils savent très bien que Dieu l'a annoncé à sa naissance, que le plus vieux va servir le plus jeune. Il sait tout ça, mais là, on va le mettre en action. C'est nous autres qui vont le faire. Et ça finit que Jacob est parti en fuite, tout seul. Il arrive chez Laban et tout à coup, il dit, enfin, la famille, c'est merveilleux. Ah, quelle belle fille, je vais le marier. Ah, Jacob a toutes ses patentes à organiser. Il a tout planifié ces choses. Et la question que j'avais initialement, est-ce qu'on s'identifie avec Jacob? Est-ce qu'on peut sentir que Jacob est un peu comme nous, ou nous sommes un peu comme Jacob? On a une idée, on voit un besoin, on va l'adresser, on va faire qu'est-ce qu'on pense. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Est-ce qu'on est vraiment prête? Et là, Jacob, il est face à son frère qui s'en vient avec 400 hommes. Wow! Et Jacob est vraiment effrayé, il a peur. Et il partage en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, le camp qui resterait pourrait se sauver. Encore Jacob patente, il patente des affaires. Il dit, tiens, la moitié de ma gang, on va le mettre dans une place, et l'autre moitié, on va le mettre ailleurs. Puis s'ils viennent, ben ils vont attaquer un, puis l'autre va se survivre. Jacob a vraiment, tu vois le mode panique, là, c'est vraiment ça. Là. Il réagit d'un sens inverse des versets qu'on a vus précédemment, où ce que Dieu lui a dit, retourne chez toi. Ou est-ce que Dieu envoie des anges pour l'encourager? Et au lieu de mettre sa confiance dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il manigance des plans encore. Et il pourrait facilement se dire, Seigneur, je me fie à toi, on va y aller, on va aller en bon ordre. Mais non, c'est comme s'il n'a pas la confiance dans le Seigneur. Et ça finit qu'il cherche des moyens humains pour se défendre. En passant, on voit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui connaissent le Seigneur, connaissent les bénédictions, ils savent toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Mais malgré cela, ils font des projets, ils font des plans. Et franchement, on se questionne, c'est-tu parce qu'ils ont confiance dans le Seigneur ou parce qu'ils n'ont pas confiance? Vraiment grave. Là, verset 9, on arrive à une partie que je trouve surprenante et je trouve appropriée en passant. Verset 9, Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans de ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Enfin, Jacob se met à genoux, il présente la situation devant l'Éternel et il demande de l'aide. Il avoue le fait qu'il est incapable de se défendre et il a besoin du Seigneur. Et c'est vraiment un point important dans la vie. Lorsqu'on regarde les choses autour de nous, comme Jacob, on doit dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je sais que toi, tu es en charge. C'est toi qui as fait des promesses. J'attends sur toi. Et malgré ses prières, verset 13, Jacob a un plan pour comment il va apaiser son frère. OK? Verset 13. C'est dans ce lieu que Jacob passe la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous sa main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Il dit à ses serviteurs, « Passe devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Ah, c'est pas pour vous autres, mais ça, ça me mêle beaucoup. So, j'ai pris une calculatrice et j'ai fait le somme de tout. Ça fait 550 animaux. Ah, c'est tout un cadeau. Hein? Moi, j'aime ça en dessous de l'arbre de Noël d'avoir des cadeaux. Est-ce que vous aimez ça, vous aussi? Ça fait beau, hein? Et puis, j'aime tout le temps le plus gros parce que je souhaite que le plus gros soit à moi. 550 animaux ne fit pas en dessous de l'arbre de Noël. C'est un cadeau énorme. C'est une offrande énorme que Jacob veut offrir à Esaü en espérant que quoi? Son frère va être heureux, content, il va l'accepter. On parle de ça, c'est comme comment acheter son frère? C'est tout un compromis. Il lui donne tous ses animaux et puis je sais qu'il lui en reste. Il n'a pas tout donné. Alors c'est un homme très riche. Pour être capable de faire ce qu'il fait. Tellement un grand cadeau qu'il donne. Puis là, il leur donne des instructions suivantes. C'est fascinant. Regarde ces instructions. Il donne cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera, verset 17, et il te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon Seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Esaü quand vous le rencontrez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, viens aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillerait-il favorablement. Le présent passe devant lui et il reste cette nuit dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok, et il prit leur fille passer le torrent. Il le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Alors, Jacob donne les instructions. Il divise les troupeaux en trois groupes. Et il les envoie avec les serviteurs. Chaque serviteur a les messages à livrer. Et il part, il s'en va. Et là, il arrive à un ruisseau qui s'appelle le Jabbok. C'est à l'est de Jourdain. C'est un ruisseau qui coule vers le Jourdain et vers la mer Morte. Et il arrive à cette place-là en s'en allant vers le Seir. Seir, c'est une ville au sud de la mer Morte où Esaü s'est installé. Alors, il s'en va vers Esaü, il arrive à ce petit ruisseau, il traverse tout ça et il envoie sa famille complètement au bord, mais lui, il ne traverse pas. Lui, il reste tout seul. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je trouvais ça quand même spécial. Il est tout seul et tout à coup il n'est plus tout seul. Et l'homme avec qui il est en train de se battre. C'est-tu son frère? C'est qui ça? Qui est arrivé? C'est de la noirceur? On ne sait pas. C'est pas identifié. Il n'y a pas rien pour nous dire. Et là, on lit l'histoire, verset 25. Il faut que tu penses un peu. On est en train de lire l'histoire qu'Abraham a donnée aux enfants d'Israël dans le désert. Et il est en train de leur expliquer comment Jacob est arrivé dans la terre promise. Hein? Alors, il voit cette situation. Il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il disait, « Laisse-moi aller, car l'horreur se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car c'est, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passait à Péniel, et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de l'hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Moi, j'ai beaucoup de misère avec cette partie de passage. Dans le sens que, pourquoi Jacob a décidé de rester tout seul? La première réaction, c'est qu'il a fait passer tous ses troupeaux, tout le cadeau qui s'en va à Ésaü, tous ses troupeaux à lui, ensuite toute sa famille, et il reste tout seul. C'est-tu parce qu'il a peur? On sait qu'il a peur. On sait qu'il craint son frère. Il ne sait pas à s'attendre. Et il va essayer de l'apaiser, mais ça se peut qu'il soit encore fâché après 20 ans. Hein? Peut-être qu'il va lui enlever la vie. Peut-être c'est pour ça qu'il est resté tout seul. D'autres places, j'ai lu des suggestions que c'est peut-être parce qu'il avait besoin de temps de réfléchir comment il va réagir face à Ésaü. Peut-être c'est le temps où il voulait passer du temps tranquille avec le Seigneur, en méditation. C'est pas ça qui est arrivé, hein? Il n'avait pas de temps tranquille. Il était en train de se lutter avec un homme inconnu. Et il vient, il va lui lutter toute la nuit, dans la noirceur, et on n'aura aucune idée de qui c'est. On sait très bien que Jacob va battre jusqu'à la fin, il va lui tenir jusqu'au point, il va se faire blesser à l'hanche. Hein? Et Jacob lui tient jusqu'à temps qu'il lui donne une bénédiction. Il cherche une bénédiction. Il me semble que tu luttes avec quelqu'un, c'est pas une bénédiction que tu veux avoir. Hein? C'est la victoire que tu veux avoir. Là, et on voit cette situation. Comment est-ce qu'on peut voir Jacob? Et face à ça, au moins que Jacob commence à être conscient de quelque chose. Et il l'avoue, n'est-ce pas? Il appelle la place Péniel parce que quoi? Il vient pour rencontrer Dieu. Et pour lui, c'était une place très spéciale où ce qu'il l'a vu face à face. Il est un homme à laquelle il est capable de bénir Jacob. Donc Jacob met beaucoup de pression sur cet homme pour lui donner justement cette bénédiction. Alors, c'est fascinant de le voir, et on se pose la question, c'est-tu parce que Jacob avait besoin de battre Dieu? Hein? Est-ce qu'on fait ça des fois? On est là, puis on est en train de dire, « Viens là, Seigneur, on va se prendre, OK? » Moi, je trouve ça illogique. Le Créateur du monde, de l'univers, notre Créateur, et on pense qu'on peut le battre. Pourtant, Jacob, il semble que ce n'est pas lui qui a initié le lutte, c'est quelqu'un qui est tombé dessus la nuit. Et il s'est défendu jusqu'au matin. Et la façon que Dieu le bénit en disant que hey, son nom c'est maintenant Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Elle, c'est Dieu. C'est quoi Israël? C'est un sens assez spécial. C'est une expression hébraïque qui veut dire combattre. Yeah. Il a combattu avec Dieu. Et c'est très intéressant parce que les interprétations, c'est qu'il s'est combattu avec Dieu, l'un contre l'autre, ou il s'est combattu avec Dieu vers un objectif en commun. Et on voit comment est-ce que ça peut être interprété de différentes façons. L'hébreu est de même. Elle donne une liberté quand on voit l'utilisation, le contexte dans lequel, comment est-ce que ça peut dire? Mais Israël, c'est celui qui combat avec Dieu. Et on voit très bien Jacob qui était autrefois celui, Jacob voulait dire quoi? Celui qui s'accroche hein, au talon de son frère. Et c'est comme ça qu'il a eu son nom, s'accroche. Celui qui est tout le temps en train de faire des choses pour venir et se prendre après. Et Jacob était celui qui avait tout le temps des plans, tout le temps des idées. Comment il peut faire ci, faire ça. C'était un homme qui était rempli de ça. Mais maintenant, tout à coup, il est face à l'Éternel et les choses changent. Je trouvais ça drôle lorsqu'on a regardé, il y a des semaines passées, on regardait comment est-ce que Jacob, lorsqu'il a quitté Ensuite, il s'est trouvé une place à dormir, et à cette place, on l'appelle Bethel. Et c'est là où il a rencontré Dieu qui montait et descendait, les anges montaient et descendaient l'escalier. Et Dieu était en haut, et Dieu, comment est-ce que Dieu s'est prononcé, comment est-ce qu'il va le défendre, comment est-ce qu'il va le protéger. Et moi, je trouvais la vie de Jacob, c'était une vie très tourmentée, mais de l'autre côté, il y avait des fois misère à se mettre la confiance dans le Seigneur. Puis maintenant, dans cette situation, bien, c'est complètement différent. Maintenant, il est dans une situation où est-ce qu'il doit mettre sa confiance à l'Éternel parce qu'il ne sait pas comment est-ce que Ésaü va réagir. Et là, on arrive à chapitre 33, et les premiers versets, moi, je trouve ça fascinant. Toute la crainte, tous les plans, toutes les manigances que Jacob s'est pondu, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, et il s'est battu enfin avec Dieu, et pour là, il arrive à un endroit très spécifique. Jacob levait les yeux et regardait, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa et Rachel, les deux servantes. Il plaçait en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passait devant eux. Il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Lui a tout le temps dans sa tête, quoi? Ça va virer mal! Ça va être un problème. Et il organise, tu vois comment il organise la famille, hein? Ils sont en priorité. Celle qui va être complètement en arrière, c'est Rachel, avec Joseph, les plus importants. Ensuite, Léa, avec ses enfants, hein? Ensuite. Et ensuite, les servantes avec leurs enfants. Et il les plaçait, quoi, pour les protéger probablement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait. Mais il arrive, il a peur. Et Ésaü, verset 4, courut à sa rencontre, il l'embrassa, il se jeta à son cou, il le baisa, et ils, les deux, pleuraient. Et quelque chose de voir ça. Avec tout ce que Jacob avait peur, avec tout ce que Jacob avait pensé, avec tout ce qu'il avait fait, il arrive et son frère, tout ce qu'il veut faire, quoi? Il veut l'embrasser. Il veut le coller. C'est mon frère, mon petit frère. Je n'ai pas vu depuis 20 ans. Et il cherche à voir Jacob. Spécial quand on pense à tout ça. Comment il peut voir les émotions de 20 ans s'évaporer dans un instant? S'en aller. Et on peut voir comment est-ce qu'ils sont tellement contents de se voir l'un l'autre. Dans verset 5, jusqu'à la fin de la chapitre, on a une série de choses qui arrivent, qui sont, en fin de compte, tout à fait normales. Ésaü va lui poser la question, il vit les femmes et les enfants, il dit, « Qui sont ceux qui sont là? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchent, et elles et leurs enfants, ils se prosternent. Léa et ses enfants s'approchent aussi, ils se prosternent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que Jacob s'identifie comme ça? Parce qu'il venait de voir la face de Dieu. Parce qu'il venait de le rencontrer et de lutter avec et réaliser que hein, c'est pas un ennemi, mais c'est un allié. Il a ce même sentiment face à Ésaü. Lorsqu'il regarde Ésaü, il voit très bien que c'est un frère qui lui manque depuis longtemps. Et puis là, il veut donner le cadeau. Et l'autre, il dit, ben non, j'en ai pas besoin, merci. Mais oui, il faut que tu le prennes. Mais non. Mais oui. Vous avez déjà vu ces situations-là? Ça arrive souvent dans notre famille. Là. On se pousse l'un et l'autre jusqu'à temps qu'un va l'accepter. Et justement, Jacob, ici, va lui insister. Il dit, prends-le, accepte mon cadeau comme mon présent, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Et je ne manque de rien. Il insistait auprès de lui, et Ésaü accepta. Et là, Ésaü va faire quelque chose de très normal. On est venu te rencontrer parce qu'on voulait te voir. Maintenant, on va aller avec toi. Hein? Il dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Mais Jacob lui répondit, mon Seigneur, sait que les enfants sont délicats, j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne des devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement, au pas de troupeau qui me précéderait, et au pas de mes enfants jusqu'à j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. Et Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Je te trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir, et Jacob partit pour Sukkoth. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on l'appelait ce lieu le nom de Sukkoth. À son retour à Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville, il achetait une portion du champ où il avait dressé sa tente. Les fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kesita. Et il éleva un hôtel qu'il appelait El Eloi Israël. Alors, il est arrivé à la maison, enfin. C'est spécial de le voir, tout le cheminement. Il semble que Ésaü veut l'aider à tout prix, puis Jacob ne veut pas son aide. Je ne sais pas si Jacob a encore dans son cœur une crainte que peut-être son frère a un plan, quelque chose de croche. Mais c'est drôle, c'est lui qui était croche, c'était qui? C'était Jacob. Marc.
Oui. Donc, et tout de suite après, dans sa rencontre avec son frère, il a encore compris. Parce qu'il dit, je vais suivre jusqu'à Séhir. Il change de direction. Donc, est-ce que là, il y a pas une sorte d'analogie quand on est devenu chrétien? En fait, le changement de sauter va de façon automatique. On reçoit le Seigneur, mais il va se mettre en place dans le Seigneur de façon progressive.
Il y a une comparaison très claire, n'est-ce pas? On le voit, moi je le vois aussi. Jacob est encore Jacob. Dieu lui a donné le nom d'Israël et c'est à ça qu'il devrait aspirer. Mais moi je crois qu'en dans le fond de son cœur, il y a encore des petites parties de Jacob qui arrivent. Comme tu as dit, il ne s'est pas rendu à Séhir, pas d'après le texte. Il s'est rendu en Israël, en Canaan. Je sais que Jacob avait beaucoup d'animaux, grande famille. Je peux comprendre toutes les raisons pour lesquelles, mais pourquoi il n'a pas dit à son père, je vais aller m'installer et on se verra plus tard. Parce que je serais, ils vont se voir plus tard. Mais le point, c'est qu'il semble que Jacob a ses plans. Il n'a pas besoin d'avoir Ésaü alentour ou ses hommes. Lui, il semble avoir déjà décidé où il s'en allait. Et d'ailleurs, c'est comme sa nature, notre nature est comme ça. Quand on est venu au Seigneur, il nous a transformés complètement. Oui, mais il reste encore un peu de dernier dans dernier. Il reste un peu encore de Marc Lamarck. Si tu veux.
Il reste un peu
de
péché.
Exactement. Exactement. Et ça, c'est le point que moi, je voulais arriver. C'est que si on regarde ce passage, on a énormément de sympathie pour Jacob, pour tout ce qu'il a peur, pour tout ce qu'il a vécu. Puis de l'autre côté, on peut s'identifier avec. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui date depuis longue date. C'est dans son cœur. Et Paul nous dit dans Romains comment est-ce que lui aussi, il se bat avec lui-même. C'est cette même notion, c'est qu'on a cette nature qu'on sait qu'on n'a plus besoin. On a une autre nature. Comme Jacob est devenu Israël, on n'a plus besoin des anciens tromperies de Jacob. Et on voit comment est-ce que les promesses de Dieu se sont gardées. Et je sais que c'est peut-être aller un peu loin dans la situation, mais si on regarde tout ce que Dieu a promis à Jacob, qu'est-ce que Dieu a promis à Isaac, Dieu ce qu'il a promis à Abraham. On voit comment est-ce que ces promesses, Dieu les garde. Et ça, pour nous, là, ça doit être vraiment un motivateur. Pour que nous, on puisse regarder notre vie et nos expériences et nos sentiments, nos émotions, et en même temps réaliser que par-dessus toutes ces choses-là, Dieu gère tous les événements. Dieu gère tout ce qui va arriver dans la vie. Jacob a vécu des hauts et des bas pour en arriver ici à quoi? Exactement où ce que Dieu l'avait intentionné lorsqu'on pense à tout ce qu'il a promis. On est rendu nombreux, on est rendu toute une grande famille. C'est pas fini. Ça va, avec les semaines qui s'en viennent, on va voir comment est-ce que Dieu va multiplier justement cette famille. Et on va voir comment ça va transformer à travers les années. Mais Dieu l'a protégé. Et ça, c'est l'élément que je pense qu'on néglige souvent. Nous, on a crainte, on a peur de ce qui va arriver à l'ouvrage. Le monde, l'économie est en train de changer constamment. On pense aux politiques. Qu'est-ce qui arrive dans les nations? Comment ça va dérouler? Et pourtant, à travers toutes ces choses-là, on a quoi? On a toujours Dieu, l'Éternel, qui est là. Pourquoi? Pour nous protéger, pour nous garder. Et nous, on devrait être capable de s'identifier avec cela. Plutôt que d'on cherche un passe-passe pour s'en sortir, on n'a pas besoin, on a l'Éternel sur notre côté. Nous avons simplement à l'obéir, à de le suivre et de faire ce que Dieu met devant nous. C'est tellement intéressant parce que c'est contre la nature humaine. La nature humaine, on se pense capable, on se pense intelligent. Si vous regardez quasiment tous les différents médias aujourd'hui, on parle que de quoi? Qu'est-ce qu'on peut accomplir, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on veut encourager les gens. Et pourtant, les gens aujourd'hui, ils ont les mêmes problèmes qu'ils ont toujours eu. On a plein de monde autour de nous qui cherchent et ne trouvent pas le succès. Et ils ont toutes sortes de réactions. Cette semaine, j'ai entendu d'un jeune de 14 ans qui s'est suicidé parce qu'il ne se sentait pas capable de vivre dans ce monde. 14 ans, pas de potentiel. Moi, je me sens tellement mal face à un scénario comme ça. Et il y en a plein, plein, plein. Comment est-ce que les gens n'ont pas quelque chose sur lequel ils peuvent s'accrocher? Et nous, on peut s'accrocher sur les promesses de Dieu, sur sa protection. Où est-ce qu'il va nous amener? Comment il va transformer nos vies? Comment est-ce qu'on en disait avant la classe? Hey, on va arriver avec un quoi? Charles m'a dit, on va avoir tout le temps, quoi, 28 ans? On va être beau, on va avoir des cheveux, on va être... Hey, pour l'éternité, qu'est-ce que vous en pensez?
Hein?
Et le Seigneur nous a promis, justement, de nous amener avec lui et d'avoir, justement, cette future devant nous. Pourquoi est-ce que nous, on peut être troublés? Pourquoi on peut avoir besoin de toutes sortes de façons de s'en sortir quand Dieu est là pour le faire? Et ça revient un peu à la question initiale. Est-ce que des fois, on a besoin d'aider Dieu?
Non.
Jacob n'avait pas besoin d'aider Dieu. Dieu avait un plan. Dieu avait toutes les choses qu'il voulait s'accomplir. Mais pourtant, on pense. Les guerres, ils marchent. Hein, on pense tout le temps. On n'a pas besoin. Dieu a un plan merveilleux. Et en tout cas, je vous laisse ce matin avec ces idées-là. Et on va continuer la semaine prochaine. Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous instruit. On te remercie pour le fait que tu nous guides et que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour habiter en nous. Donne-nous la paix à savoir que tu as tout en contrôle, que nous, on va simplement te servir, t'obéir. Et comment, Seigneur, tu vas nous donner tellement de joie. C'est un privilège qu'on te connaît et on sait que tu nous donnes plein d'opportunités autour de nous. Aide-nous de voir clair. Aide-nous de bien discerner ta volonté par-dessus toutes choses. Nous, Seigneur, nous demandons ces choses parce que tu es un grand Dieu, un Dieu miséricordieux. On demande, Seigneur, que tu prépares nos cœurs pour l'adoration qui vient. On demande ces choses pour le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.